Vous écoutez Radio Bonheur, voici le magazine des déchaînés du football, comme chaque lundi soir, 19h05. On est en direct pour cette soirée foot pendant 1h30, de 19h jusqu'à 20h30. Comme à chaque fois, nous allons parler des clubs pro que nous suivons sur Radio Bonheur. En commençant par Brest, nous continuerons ensuite avec Lorient et l'En Avant Guingamp, les clubs amateurs et notamment les clubs de national ne seront évidemment pas oubliés. Des fortunes diverses ce week-end sur les ondes de Radio Bonheur pour les clubs pro que nous suivons. En Ligue 2, tout va bien pour Guingamp qui retrouve le sourire et une victoire à domicile. Pour Lorient, ça reste correct, toujours sur une bonne série avec un match nul satisfaisant, on va dire ça comme ça, contre Clermont. Par contre, pour Brest, c'est toujours très très difficile ce championnat de Ligue 1. Les déchaînés du football avec Pierre-Henri Dufay. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Dominique, bonsoir à toutes et à tous.
Et avec Gaëtan Pinel en studio, bonsoir.
Bonsoir Dominique, bonsoir Pierre et bonsoir à tous. Bonsoir.
Alors on commence par le plus difficile, les Brestois qui ont connu encore un week-end compliqué avec une défaite 2-1. Alors une défaite qui ne reflète un score qui ne reflète peut-être pas tout à fait la physionomie de la rencontre, parce que malheureusement Brest aurait sans doute pu et même dû perdre avec un écart sans doute plus important, parce qu'on a vu une pâle équipe brestoise en déplacement à Nice ce week-end, et toujours pas de victoire pour Brest. Il va devenir urgent de gagner dans 15 jours contre Reims.
Oui, exactement. Et vous savez, souvent on dit dans les matchs que il y a le score et il y a la prestation. Et parfois aussi, quand on sort un exploit, il faut, par exemple, hier, Rennes-PSG, il fallait un grand Rennes et un petit PSG. Et bien là, il y a eu un grand Nice et un petit Brest. Et pourtant, eh bien, c'est vrai qu'il n'y a eu que 2-1 dans ce match entre Nice et Brest. Et puis, il y a un indice statistique, on n'en parle pas beaucoup sur Radio Bonheur parce que on essaye de donner des chiffres assez simples, mais il y a l'Institut de statistique Opta qui depuis 2-3 ans a popularisé les expected goals, c'est-à-dire les buts que les occasions auraient dû générer. Et là, sur ce match, Nice a eu une valeur de 4 expected goals, c'est-à-dire que Nice aurait dû marquer 4 buts dans ce match. C'est un record depuis que cette règle statistique existe depuis 10 ans. Donc c'est dire l'emprise niçoise sur ce match. Il n'y a pas eu photo dans cette rencontre. Du début à la fin, ça a été très très compliqué pour les Brestois, qui ont quand même eu le mérite, et on y reviendra un petit peu plus tard, de ne jamais abandonner, de ne pas rompre définitivement, parce que ça aurait pu virer à la valise pour les Brestois. Écoutons ensemble ce qu'il s'est passé samedi sur Radio Bonheur. C'était en direct de Nice. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'occasions niçoises, mais une de Brest aussi qui aurait pu changer le match. Ballon avec ce coup franc dans la surface, la tête de Delors et Bizot, auteur d'une première parade déterminante sur cette tête plongeante. Tomba qui passe en force, en puissance face à Duverne, le centre devant le but, il y a du monde, la tête, et Bizot encore. Oh, encore le temps qui s'est suspendu au-dessus de la Lance Riviera sur cette tête smatchée d'Andy Delors. Au second poteau, le ballon qui a rebondi juste après la reprise de la tête sur la ligne des 6 mètres. Et Bizot qui est venu boxer ce ballon en dehors de sa cage.
Super Bizot.
Allez, peut-être Fèvre pour Honora dans la surface. Ah, il faut centrer, il y avait Cardona tout seul. Le centre d'Honora pour Mounier, la frappe à côté. À côté, Mounier tout près du but. Lui qui avait marqué 2 fois l'année dernière. Ici même, sur ce coup bien joué finalement par Honora. En 2 temps après le crochet dans la surface de réparation, le centre en retrait. Ils étaient 4 dans la surface, Mounier arrivé lancé. Et ce ballon qui est touché du talon par Dantz avait complètement trompé Benitez. Et le ballon qui est venu lécher le poteau. Et barre pour le centre, attention, faut être là. Oh l'erreur et le but. Oh l'erreur encore. L'erreur défensive, on s'est tamponné entre Denis Bain et Marco Bizot. Ensuite, et juste avant cela, il y a eu une erreur de lecture de la trajectoire de Brendan Chardonnay. Brest qui craque au pire moment. Il me semble que c'est Todibo qui vient profiter de l'offrande totale. On lui a mis
mis le cadeau sous le sapin. Ils l'ont là emballé avec le plus beau nœud papillon qui existe. Autour de lui, de l'or. Oh, qui va donner un ballon. Excellent Verstegg. Zelda là-bas. C'est pas fini, Guiri à côté. On est béni des dieux sur cette action. Delors pour Guiri, ça sent le chaos et ça fait deux. Et ça fait deux, voilà le deuxième, il est signé Melvin Barr. Alors qu'au départ, Brest avait un ballon pour relancer, ils ont été battus dans tous les duels, les pieds brûlent. Ils n'ont pas rendu les clés du camion avant la fin. Allez, attention à ce centre de Duverne, la tête de Thuram qui écarte le ballon d'un coup dangereux. Allez, la frappe de Fèvre, oh, complètement manqué, c'est pas fini. Onora qui frappe. Allez. Et qui marque. Et le but du 2-1. Mais revenez, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils reviennent en marchant là, les Brestois. Eh bien, on disait que le score ne reflétait pas du tout le match, encore moins maintenant que Brest est revenu à 2-1. Le score est un peu trompeur. Il y avait plusieurs buts d'écart, plusieurs niveaux d'écart entre les deux formations, mais Brest est revenu à 2-1 au courage, en n'abandonnant pas dans cette rencontre. C'est un des maigres points positifs sur lesquels s'appuyer.
Et défaite donc de 2-1 dans ce déplacement à Brest, dans ce déplacement à Nice des Brestois. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce déplacement d'abord, et puis de cette équipe brestoise qui n'arrive toujours pas à gagner? En même temps, on aurait quand même été très surpris d'un bon résultat de Brest à Nice, parce que Nice fait partie quand même des bonnes équipes, hein, des équipes du haut de tableau, ouais, de ce championnat de Ligue 1. C'est bon, je mets de côté le Paris Saint-Germain, mais voilà, avec Lens, avec cette équipe de Nice, on est dans le haut du panier. Donc c'était compliqué de toute façon pour les Brestois, mais vraiment là, on a vu la différence samedi après-midi.
Ouais, on a eu vraiment une démonstration de Nice. Moi, j'ai vu un rouleau compresseur. C'est vraiment l'impression que l'on a eue au stade, et sans doute aussi pour les gens qui ont soit écouté à la radio, soit regardé à la télé, ou les deux. Vraiment, il y avait plusieurs niveaux d'écart sur ce match-là, et même dans la possession, dans les dribbles. Alors, ça n'a pas été tout le temps régulier, parce qu'il y a eu des petits temps faibles, notamment le dernier quart d'heure de la première période, où paradoxalement, c'est là que Nice marque. Mais c'est au début de ce quart d'heure-là aussi que Mounier, vous l'avez entendu, a eu une occasion folle à 0-0. Et souvent, quand vous sortez un exploit, il faut que tout vous sourisse. Et bizarrement, ça a commencé à le faire, parce qu'il y a eu des parades de Bizot, il y a eu là-bas, mais Brest n'a pas réussi à être clinique sur ses rares occasions. Enfin, vous me direz, il y a eu deux occasions, un but, c'est pas mal, mais si Mounier marque au début du match, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Mais clairement, la Brest était en grande difficulté, et encore. Et Gaëtan, vous qui avez vu les Brestois aussi souvent cette saison, il y a eu des défaites qui étaient voilà, des matchs où Brest n'a pas forcément mérité son résultat. On pense à Lyon, où le nul peut se transformer, oui, en victoire. Des défaites qui auraient pu se transformer en nul. Là, c'était net et sans bavure, malgré la petite étroitesse du score.
Oui, et malheureusement, j'ai l'impression que plus les semaines avancent et plus la logique est quand même respectée sur les matchs de Brest. Alors, contre Metz, pas tant que ça, c'est vrai. Mais là, à Nice, à Nantes, c'était le cas aussi.
À Clermont, ils peuvent le gagner.
Clermont, ils doivent le gagner, c'est vrai. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même deux fois, notamment à l'extérieur, où il y a des couacs.
On sent que Brest ne gagne pas. Voilà, on voit bien que Brest n'est pas dans le niveau du haut de cette première division, de ce championnat. Mais en même temps, avec quelques victoires, notamment contre Clermont ou contre Lyon, eh bien, on serait à des niveaux comme 3, enfin, ou à des équipes qui ne sont pas complètement dans le bas du classement. Il y a effectivement le jeu brestois qui ne, ouais, va pas, mais en même temps, il y a eu quelques coups du sort, un petit peu, un peu de manque de réussite dans les dernières rencontres, même si c'était logique, hein, ce qui s'est passé à Nice ce week-end. Mais il manque ce petit quelque chose.
Oui.
En plus, voilà, les Brestois n'y sont pas, mais en plus, ils n'ont pas de chance, quoi.
C'est ça, c'est ouais, vrai que c'est vrai que ce petit quelque chose qui était pas loin hein, de basculer pour les Brestois sur les matchs de début de saison. On parlait de Lyon il y a un instant. On parlait aussi de Rennes. Rennes, le match contre Rennes, bon, Brest peut aussi le gagner, ce match-là. Et ben là, j'ai l'impression que ce petit quelque chose qui n'était pas loin s'éloigne un petit peu plus à chaque fois. Que...
C'est ça le problème, parce que si ça arrive sur un ou deux matchs et que vous dites, ah, c'est pas possible, ça tourne pas pour nous, d'accord. Mais là, ça fait quand même
ça se répète.
9 matchs non, mais que ça se répète.
Il faut gagner, je crois que tant que les Brestois n'auront pas gagné, pour eux, d'abord en comptablement, évidemment, ça leur fera du bien, mais je pense que c'est surtout psychologiquement que ça leur fera du bien, cette première victoire. Il va falloir, contre Reims, là, dans deux semaines, absolument gagner ce match si on veut que les Brestois soient remis en selle.
C'est un vrai poids mentalement quand on est mal comme ça dans une saison, et surtout sur un début de saison, quand c'est la première. Il y aurait eu une victoire, puis une série de défaites, ce serait différent. Mais là, il n'y a pas eu de victoire encore. C'est ça qui pêche davantage psychologiquement sur cette équipe brestoise. C'est le cas aussi pour Saint-Etienne d'ailleurs.
Là, ils ont arraché le match nul hier soir.
Ils ont arraché le nul
hier
contre Lyon. Mais c'est pareil, c'est une équipe sans victoire. Et ces équipes-là, tant qu'elles n'ont pas cette première victoire, tout paraît très difficile et quasi insurmontable.
Ouais, les Brestois sont dans le dur, illustration avec la première réaction du coach Michel Derzakarian.
Ben on est en difficulté, on est dans les trois derniers, on est bien sûr qu'on est en difficulté, on le sait, on sait que ça va être difficile. Mais dans la vie, de tous les jours, il y a des gens qui sont en difficulté aussi. Nous, on est des privilégiés, il faut qu'on se batte, voilà, qu'on montre nos qualités. Et, voilà, même si on a un effectif qui est jeune, il va falloir, dans un premier temps, ben, on est à rester unis avec l'équipe qu'on a et se battre. Voilà, renouer la victoire à domicile pour lancer notre saison. On a fait des bonnes séquences sur certains matchs, on a fait des bonnes mi-temps, on a fait. Voilà. On n'est pas largué. Ce soir, ils nous ont. Je vais pas dire qu'ils nous ont broyés, mais ils ont été plus forts que nous.
Alors deux choses, d'abord c'est vrai les Brestois ne sont pas largués, ne sont pas distancés malgré un début de championnat
très
difficile.
C'est la chance de Brest.
Voilà, c'est qu'il y a encore beaucoup de clubs à la portée des Brestois. Et par contre le deuxième point c'est que j'ai l'impression que, enfin si ma mémoire est bonne, Derzakarian n'a jamais connu, en prenant une équipe comme ça tout de suite, dès la première saison, un début de saison aussi compliqué pour un club de Ligue 1, avec en objectif le maintien et toujours pas de victoire après presque 10 matchs.
Non, il a souvent eu des débuts de saison plutôt bons d'ailleurs avec Nantes.
Oui,
quand ils sont
montés, est passé par des saisons pas faciles avec Nantes où le maintien n'était pas gagné.
Mais il y avait un matelas de points en tout cas pour
démarrer. Mais ça passe. Là, en tout cas, dès le début du championnat, Derzakarian est confronté quand même à un souci qu'il n'a peut-être pas encore rencontré dans sa carrière d'entraîneur jusqu'à maintenant. Ouais. C'est-à-dire de flirter quand même avec la dernière place dès la 10e journée.
Mais il y a un moment, je crois qu'on va entendre ce moment dans les réactions où il dit « j'ai connu ces moments en tant que joueur ». Il n'a pas parlé de sa carrière en tant qu'entraîneur.
Joueur peut-être,
Ouais, et c'est... Mais c'est le fruit aussi, tout ce qui arrive à Brest, c'est le fruit de la fin de saison dernière, la deuxième moitié de saison dernière, d'un mercato où Brest a dit très vite qu'il n'avait pas les moyens de recruter. Et on voit, il manque des joueurs clés à des postes ultra important. Lorenzi en a encore reparlé à nos collègues de l'équipe, le directeur sportif avant le match à Nice, notamment un défenseur central d'expérience. Là il y a un point positif, c'est le retour de Denis Bain après un an et demi d'absence, qui a été plutôt solide dans son couloir. Mais quand on voit que Duverne joue latéral gauche, déjà que c'est pas son poste de prédilection, et que quand il joue à son poste de prédilection, on peut pas dire depuis plus d'un an que ce soit une assurance tout risque. Là, Uronen est blessé, il n'arrive pas à revenir. Il manque aussi un latéral gauche dans cette équipe. Il y a RL, et puis il n'y a pas une profondeur d'effectif. Vous voyez, dès qu'il y a 2, 3, 4 absents, bah, on voit par exemple l'impact du banc, il n'y en a pas énormément. Il y a le Doiron qui a marqué un ou deux buts comme ça en sortant du banc, mais on ne voit pas quelqu'un capable d'amener sur sa rentrée. Pourtant, quand on regarde le 11, je pense qu'il a le niveau de Ligue 1.
Ouais, c'est pas mal, hein, quand on regarde le 11 de départ.
Mais
on dit,
comme Lorenzi le dit, Derzakarian n'a jamais pu aligner le 11 type depuis le début du championnat de Ligue 1. 19h20, on marque une première pause dans ce magazine et on revient, avant de parler de Lorient, sur cette défaite brestoise à Nice.
Réponse directe.
Vanessa, vous êtes conseillère Massif. Vous nous présentez les solutions que vous proposez à vos sociétaires pour les protéger.
Oui, il peut s'agir notamment d'assurances qui les couvrent dans tous leurs modes de déplacement ou protègent leur logement, de contrats d'épargne assurance vie pour leurs projets ou de solutions de prévoyance pour anticiper au mieux l'avenir. À la Massif, ces solutions sont le résultat d'un bilan personnalisé que l'on effectue en agence et qui permet de bien comprendre leur situation et leurs projets.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur massif.fr.
Ma cliente, son pare-brise a fissuré. Chez Carglass, bien sûr, on lui remplace son pare-brise. Et pour la paperasse, c'est simple, on pré-remplit la déclaration brise-glace avec vous, vous n'avez plus qu'à signer. Pratique ? Et en ce moment, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, on vous offre un lave-vitre électrique Karcher. Ça nettoie sans laisser de traces. Alors profitez-en, c'est jusqu'au 9 octobre. Prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Voir conditions sur carglass.fr. N'oubliez pas, carglass.fr.
Chez Aesio Mutuel, nous suivons une autre voie, celle du partage. Ce qui veut dire penser aux autres plutôt qu'à soi et en faire toujours plus pour la santé de vos salariés. Avec notre complémentaire santé entreprise qui inclut des ateliers de prévention sur mesure, des consultations médicales à distance 24h sur 24 et une assistance psychologique. Souscription en ligne ou avec un expert, vous décidez. Aesio Mutuel, décidons ensemble de vivre mieux.
Informations et conditions sur aesio.fr ou auprès de nos conseillers entreprises.
Fini les jours de congé enfermés dans votre nouveau chez-vous de 8h à 14h en attendant le technicien qui doit mettre en service le compteur d'électricité et qui risque d'arriver à 13h55. Désormais, vous pouvez compter sur Linky, le compteur dont la mise en service se fait à distance et sans rendez-vous. Linky, le compteur qui compte avec Enedis.
Pour une installation gratuite, rendez-vous sur enedis.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bonjour, c'est Oriane Mancini. Retrouvez-moi du lundi au vendredi à 7h30 dans Bonjour chez vous sur Public Sénat, canal 13 de la TNT. Bonjour chez vous, c'est le rendez-vous de proximité avec la presse quotidienne régionale et les télés locales.
En partenariat avec les Indes Radio.
Méné. Souvent, les matins, c'est une succession de...
Papa !
Quand soudain... Découvrez des sensations inédites au volant de la nouvelle Mini électrique. Édition suréquipée à partir de 325€ par mois, sans aucun apport. Exemple pour une nouvelle Mini électrique LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Conditions sur mini.fr. Méné.
Allô ? Oh, désolé, je pourrais pas prendre votre commande avant jeudi prochain.
Marie a besoin d'un pâtissier spécialisé avec au moins 2 ans d'expérience pour mettre la main à la pâte dans sa chocolaterie. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement le bon profil.
J'ai besoin d'Indeed.
Les questions de présélection d'Indeed vous permettent d'affiner votre recherche de candidat et de consulter les CV qui correspondent le plus à votre recherche. Rendez-vous sur indeed.com/offre et profitez de 100€ offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Vous voulez bricoler, jardiner ou vous meubler, mais vous n'y connaissez rien ? Vous vous demandez si une perceuse à percussion sait jouer de la batterie ? Pour vous, une ponceuse excentrique a juste une personnalité extravagante ? Bref, vous êtes capable de vous couper avec un pinceau. Alors le bon réflexe, c'est ManoMano.fr et ses experts, disponibles 7 jours sur 7 et même le soir pour vous orienter vers le meilleur choix. Enfin, le meilleur choix pour vous.
C'est tout de suite plus facile avec ManoMano.fr. Bricolage, maison, jardin, ManoMano.fr, vous pouvez le faire.
Que faire après le bac ? Quelles études choisir ? Au Parc Floral de Paris, les 9 et 10 octobre, 2 salons du groupe Le Monde pour choisir votre orientation. Le salon des grandes écoles, le SAGE, et le salon des formations artistiques, le START. Rencontre avec les écoles, coaching, conférences, faites-le plein d'infos et de conseils. Inscrivez-vous dès maintenant gratuitement au salon SAGE et au salon START.
Allez, le magazine des déchaînés du football en direct, 19h. Et 24 minutes, début de championnat difficile, on l'a dit, pour les Brestois. Et malheureusement, défaite à Nice ce week-end, samedi.
Oui, j'étais en train de regarder pendant la pause les débuts de saison de Der Zakarian. Il a eu un début compliqué, vous vous souvenez, la saison 2008-2009, où il ne fait que 3 matchs sur le banc de Nantes. Il est viré au bout de la 3e journée, il avait eu 2 défaites et 1 nul. Et il y a un autre début de saison assez moyen, c'est lors du retour de Nantes en Ligue 1. Il y avait eu 3 défaites sur les 6 premières journées. Il avait gagné son match au bout de la 5e journée. Voilà, il avait 5 points au bout de 6 matchs.
Il y avait une victoire d'entrée contre Bastia, je crois, mais le match avait été...
Il fait 0-0. Ah oui, le match a été... Il y a eu un problème administratif.
C'est ça. Donc c'est vrai que c'était un petit peu particulier comme début de saison.
Mais non, effectivement, donc en tant qu'entraîneur, rarement Michel Derzakarian. Ah, il n'y avait pas une année, mais est-ce que c'était lui où Montpellier avait fait 6 défaites? Non, je crois que c'était avant lui.
C'était juste avant,
il était à Reims.
C'était sous Roland Courbis ou Frédéric Hans peut-être.
Ah oui, c'est ça. Donc voilà, on a la réponse à notre question. Derzakarian vit l'un des pires débuts, voire le pire début de saison de sa carrière
en tant qu'entraîneur.
Et on continue de l'écouter parce qu'il y a quand même eu 2-3 satisfactions individuelles. On a parlé de Denis Bain tout à l'heure, ça sera l'objet d'une rubrique cette semaine. Mais il y a aussi Marco Bizot, le gardien néerlandais, qui a sorti pas mal de parades, notamment à 0-0 sur les deux têtes de Delors. Vous les avez réécoutées sur le résumé tout à l'heure. Et pourtant, la participation de Bizot à ce match n'était pas gagnée. Écoutez le coach brestois.
Ouais, il a eu de la fièvre vendredi à samedi matin. Il ne s'est pas entraîné. Voilà, ça allait un peu mieux ce matin. C'est pour ça qu'on a pris la décision de le faire jouer après. Ouais, il a fait beaucoup d'arrêts.
Il a été bon.
Vous notez que c'était dur de trouver les mots pour Michel Derzakarian après cette rencontre. Là où il a été un peu plus inspiré, c'est sur le fait sur lequel il insiste beaucoup, c'est le fait de rester uni, vraiment ne pas céder à la panique malgré un navire brestois qui tangue depuis des semaines. Écoutez sa dernière réaction à Nice samedi soir.
Il va falloir qu'on arrive à se dépuceler à un moment donné, faut qu'on aille chercher la victoire. Et c'est en combattant ensemble, voilà, avec nos moyens. Il faut qu'on trouve des solutions pour arracher des victoires. C'est pas en se lamentant qu'on va y arriver. Il faut se battre dans la vie, il faut se battre. J'ai vécu des situations comme ça quand j'étais joueur. Il faut se battre. Il faut montrer ses qualités. Il faut peser un peu plus dans les duels. Ils ont montré ce soir qu'ils ont des petits bébés par moment. Il faut qu'on monte un peu notre niveau. Athlétique, technique, quand on joue contre des grosses équipes comme ça, il faut être bien meilleur.
Ouais, contre Reims, il ne faudra pas se louper.
C'est marrant parce qu'on sent que ce n'est pas un grand communicant. Hein. Michel Derzakarian, on en parlait avec Franck Ledors, notre confrère de l'équipe, après la conférence de presse, mais il a toujours ses petits mots là, vous avez entendu dans cette réaction, les petits bébés notamment, c'est vrai, on voit des fois au niveau de l'agressivité, là il y avait plusieurs niveaux d'écart, déjà au niveau technique, tactique, au niveau tout simplement du talent des joueurs, Derzak le disait aussi samedi, c'est pas le même budget, c'est pas la même envergure de club, mais quand en plus vous ne mettez pas tous les ingrédients, ça a donné ce qu'on a vu sur ces 90 minutes à Nice. Et dernière question Dominique, on en parlait en fin de match parce que Nice vient d'enchaîner deux matchs contre les deux équipes qui n'ont toujours pas gagné cette saison en Ligue 1. Il y a une victoire 3-0 à Saint-Etienne la semaine dernière, là une victoire 2-1 contre Brest. Question posée à Christophe Galtier, le coach niçois, quelle différence voit-il entre ces deux équipes? Et puis vous allez entendre aussi qu'il voit un signe positif, en tout cas la personne capable de sauver Brest cette saison.
Les deux équipes sont dans un style de jeu totalement différent. Je pense que les deux équipes ont des moyens de gagner des matchs. Ils ont certains points. Ces deux équipes ont certains points forts. Je pense que simplement, à ce moment-là, quand vous enchaînez match après match et qu'il n'y a toujours pas de victoire, il peut y avoir un doute, manque de confiance, perte de confiance. Mais pour revenir sur Brest, Michel, saison après saison, a progressé et a fait progresser Montpellier. Je n'ai aucun doute sur sa capacité à être opiniâtre et précis dans le travail pour faire en sorte que cette équipe progresse. Et je suis sûr qu'elle progressera saison après saison. Mais il faut évidemment qu'avec ces résultats-là, le doute peut s'installer. C'est ce qu'il y a de plus difficile à éliminer.
Ouais, selon Galtier, donc c'est le point fort de Brest, c'est Derzak.
Ben oui, et c'est vrai que quand on a vu le nom de Derzakarian sortir au moment de la succession de Dalloglio, Gaëtan, on s'est dit, beaucoup de monde s'est dit que Brest a peut-être su attirer le meilleur entraîneur à sa portée, en tout cas.
Oui, c'est ça. Et puis
dans le marché.
Ce qui se dit souvent, c'est qu'avec Derzakarian, on ne descend pas. On arrive toujours à se maintenir avec Derzakarian.
C'est l'assurance, normalement. L'assurance maintient.
Il y a au moins ça. Bon, pour les petits budgets, ou bon, quand il était remonté à Nantes, par exemple, voilà, il avait assuré le maintien assez tranquillement d'ailleurs. Hein. Nantes n'a jamais été vraiment sous grande pression avec Derzakarian pour.
Non, son pire classement, pardon, c'était 14e.
Ouais, donc voilà, ils sont toujours sauvés assez tranquillement. Il a même fait mieux derrière avec Montpellier. Donc voilà, on se disait que bon, avec Derzakarian, normalement, même s'il y a des moyens inférieurs sans doute aux autres années, même si peut-être certains joueurs pouvaient partir, on pensait à Fèvre notamment à ce moment-là. Bon, on se disait qu'il arriverait quand même à limiter la casse. Là, c'est vrai que sur ce début de saison, bon, ça nous fait un petit peu mentir, son équipe en tout cas nous fait un petit peu mentir, mais bon, il reste encore des matchs, il reste encore du temps pour relever. Mmh. Tout ça, mais
l'avantage de Brest cette année, c'est que les Brestois sont suivis par Radio Bonheur à domicile et à l'extérieur.
Donc là, ça devrait apporter du bonheur et le maintien.
On l'espère. Allez, on va mettre une petite pièce pour le maintien de Brest cette saison.
Juste une dernière chose, Derzakarian, il est descendu une seule fois, mais on ne peut pas vraiment lui imputer la descente parce qu'il était arrivé en fin de saison, à 10-12 matchs de la fin sur le banc de Nantes. Il n'avait plus évité la descente, mais voilà. Derzakarian plus Radio Bonheur. On espère que ça va passer.
Normalement, ça devrait fonctionner, ça devrait passer. Bon, prochain match, on l'a dit, pas le week-end prochain, hein, trêve internationale le week-end prochain, il n'y aura pas de foot pro du moins. Ça sera la réception de Reims à domicile dans 2 semaines.
Oui.
Et là, c'est une bonne occasion pour prendre 3 points à un adversaire du championnat de Brest.
Oui, une bonne occasion, comme c'était le cas contre Angers et Metz. Ça n'avait pas marché sur ces matchs-là. Il faudra que ça se débloque à un moment donné.
Il va falloir, Reims. À un moment donné.
Oui, parce qu'après, attention au calendrier. Hein. Lille-Brest, Brest-Monaco,
oui.
Lorient-Brest, Brest-Lens.
Oui, donc il y a quand même du lourd qui arrive.
Oui, il faut gagner contre Reims. C'est
un derby des équipes.
C'est quasiment déjà impératif.
Ouais. Donc Reims, ce sera Reims qui est assez régulier en plus hein, dans ses prestations comme dans ses résultats aussi depuis le début de la saison. Une équipe qui, elle, est plutôt régulière, mais qui a eu un match un peu plus compliqué hier, c'est le FC Lorient.
Oui. Bon, mais ça va quand même. Quand on compare Lorient à Brest cette année, les rôles sont un petit peu inversés en ce début de saison. Hein. On répète, mais
c'était le contraire.
C'était tout à fait le contraire. L'année dernière, c'est Lorient qui était vraiment dans le dur et on a bien cru à la descente au moment de la trêve. Hein. En mi-championnat, on s'est dit, oh là là, pour Lorient, ça va être compliqué. Et puis par contre, pour Brest, on était vraiment très joyeux. Et ben là, c'est l'inverse cette année. Ça se passe plutôt bien pour Lorient. C'est difficile pour Brest, mais c'est un bon début de saison, pour ne pas dire un très bon début de saison pour les Merlus qui ont évité la relégation de peu il y a quelques mois.
C'est vrai, c'est un bon début de saison. Christophe Pélissier disait d'ailleurs hier que ça aurait été un très bon début de saison s'il y avait eu la victoire.
Oui,
hier.
Mais bon.
Mais avec un nul, dit voilà, c'est quand même un bon début de saison.
Scénario, c'est-à-dire que c'est Clermont qui a marqué d'abord et Lorient est revenu. Donc déjà
Lorient est revenu, puis un match où Clermont a mieux maîtrisé hein, quand même le match, a dominé une bonne partie aussi de la première mi-temps. Donc c'est un bon point de gratter pour des Merlus qui surfent toujours sur une bonne vague, 6 matchs sans défaite consécutive.
Étonnant quand même, c'est Clermontois.
Oui.
Pour un club de Ligue 2, c'est vraiment un bon club aujourd'hui
de
Ligue 1.
De Ligue 2 qui vit sa première saison en Ligue 1 et qui compte maintenant 10 points avec ce match nul. Donc c'était hier à Lorient au stade du Moustoir. On écoute ce qu'il s'est passé. C'était sur Radio Bonheur. C'est Clermont qui fait le jeu, c'est Clermont qui maîtrise et qui impose son tempo. Là encore avec ce long ballon vers Bayo dans la surface, la frappe et l'ouverture du score. Le but de Mohamed Bayo, le 5e cette saison pour l'attaquant clermontois. Et les Auvergnats récompensés de leur bonne entame de match, de leur domination sur ce premier quart d'heure. Et la première occasion file au fond pour les Clermontois suite à cette longue ouverture venue de derrière de la défense centrale. Et bien Bayo à la limite du hors-jeu qui vient ajusté, Paul Nardi. Les Merlus sont déjà menés au score 1-0. Il y a Silva, il y a aussi Lefay, le ballon transmis le long de la ligne de touche. Lefay qui va lever la tête pour centrer peut-être, feinte de centre ensuite au deuxième poteau avec la volée de Vincent Le Goff montée au deuxième poteau qui passe à côté. Bayo, il va
passé Bayo, éliminé Julien Laporte derrière le décalage sur Elbassan Rachani à l'entrée de la surface de réparation côté gauche. Frappe de Rachani à côté. À côté, la frappe de Rachani, mais elle est contrée. Et ce sera un corner pour Clermont. Si, ça y est, le fait qui s'est proposé à l'entrée de la surface de réparation, pas de faute, mais perte de balle du meneur de jeu des Lorientais. Et derrière, c'est Rachani qui se projette vers l'avant. Contre-attaque, 3 contre 3 à négocier pour les Clermontois. Et avec Mohamed Bayo, Bayo, il y a du monde sur le côté gauche. Il va trouver une Simba, centre en retrait, avec la frappe de Bayo et l'arrêt. L'arrêt de Nardi, celui-là, il est décisif pour Paul Nardi parce que c'était une vraie occasion de 2-0 pour Clermont. Bayo qui a tenté sa chance pour la deuxième fois. Et ça offre donc un coup franc à Lorient. Alors il est assez lointain, à 40 mètres du but, mais l'opportunité là de s'infiltrer dans la surface, notamment avec la porte. Le but de Lorient, de l'ancien Clermontois Julien Laporte. Il ose à peine célébrer son but, lui le natif de Clermont, le joueur qui a découvert le monde professionnel à Clermont et qui là vient punir son ancien club sur ce coup franc à la porte de la tête qui vient battre Arthur Despas. Un but partout entre Lorient et Clermont. Lorient qui attaque cette deuxième mi-temps de la meilleure des manières.
Ah ouais.
Et attention à cette frappe de dessous, malgré tout, captée par Nardi, vigilant sur cette situation. Et match nul, donc Lorient n'alignera pas une quatrième victoire de rang à domicile, mais reste invaincu dans cette saison 2021-2022 au stade du Moustoir, un partout contre Clermont.
On aurait préféré une victoire, mais c'est ouais. Mieux que rien.
Oui, c'est mieux que rien. Et puis, vous avez entendu des merlus qui n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Un seul tir cadré, il est allé au fond, donc 100%
de. En première période, les Clermontois, quand même, ont déroulé.
Ouais. Ouais, sur le premier quart d'heure, notamment, c'était une maîtrise totale. Et il y a eu ce but qui est venu. Sur la suite, bon, Lorient a essayé de relever la tête, mais ça a été vraiment très difficile de bouger cette équipe de Clermont. Il n'y avait pas suffisamment de rythme, d'intensité proposée par les Merlus, en tout cas par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'expliquait Christophe Pélissier en conférence de presse. Lorient a subi avec une entame de match ratée.
Les deux, je pense que pendant les 20 premières minutes, on a regardé Clermont jouer et on connaît les qualités de cette équipe avec le ballon. Quand on les laisse jouer, ben on est en difficulté. Et de suite après le but, on a commencé un peu à monter l'intensité. On a vu qu'ils étaient plus en difficulté pour faire le jeu. Donc je crois que c'est toujours les deux. Quand il y a une équipe qui est moins bien, l'autre prend le dessus. Et pendant les 20 premières minutes de la première mi-temps, on n'a pas su et on a pas su faire surtout l'entame qu'on voulait faire en mettant beaucoup d'intensité. Donc il fallait vraiment monter le curseur par rapport à ça. La preuve que dès qu'on a monté un petit peu, ça a pu nous créer des situations, ça a amené l'égalisation de ce coup franc. Mais voilà, je trouvais les joueurs un peu émoussés. On le voit aujourd'hui, Enzo qui sort, Terem qui sort sur blessure.
Ouais, il y a eu deux sorties sur blessure. Enzo Lefebvre qui a pris une béquille. Terem Moffi touché à l'acromio-claviculaire. On ne sait pas exactement encore quelles seront leurs durées d'indisponibilité à ces deux-là. Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une longue indisponibilité, notamment pour Moffi, parce que dans ce secteur du jeu.
Ouais, parce que c'est un peu comme pour Brest. Hein, on n'a pas un banc très important aussi à Lorient.
Ouais. Surtout à ce poste d'attaquant où il y a Adrian Gerbic, mais qui était blessé hier par exemple, et puis qui, bon, depuis son arrivé il y a un an n'a jamais pour l'instant convaincu. Il y a des jeunes joueurs comme Ouattara qui est entré sur la fin de match. Il y a Diarra qui est plus ou moins replacé à ce poste là aussi maintenant, mais voilà, ça reste quand même du bricolage quand Moffi n'est pas là. Et évidemment on surveillera la durée d'indisponibilité de Moffi. Peut-être que la trêve suffira à le rétablir. Les Merlus,
du coup, la bonne nouvelle, Gaëtan, c'est qu'il ne va pas partir en sélection. Est-ce qu'il était sélectionné déjà?
Ouais, il était en fait, les deux sélectionnés c'était justement Lefebvre et Moffi. Et il y avait l'interrogation sur le fait qu'ils partent en sélection. Du coup, après le match, Christophe Pélissier n'avait pas la réponse. Il a dit on va voir. Bon, il y a peu de chance. Alors, le fait peut-être parce que c'était une béquille, donc bon, on peut s'en remettre plus ou moins rapidement. Pour Moffi, peut-être que ça peut prendre un petit peu plus de temps, quelques jours en tout cas supplémentaires. Et donc, il pourrait effectivement ne pas partir en sélection, l'attaquant nigérian. Les Merlus qui... n'ont pas eu l'élan qu'on leur connaît habituellement, hein, cet enthousiasme qui généralement d'ailleurs leur permet de bien démarrer les matchs, parce qu'ils ont marqué assez rapidement, on va dire, contre Lille par exemple, contre Nice, contre Monaco aussi, lors des victoires ils avaient ouvert le score à chaque fois en première mi-temps. Là c'est vrai qu'on n'a jamais trouvé cette fougue du côté de Lorient. Écoutons d'ailleurs Julien Laporte, l'ancien Clermontois, l'auteur de l'égalisation, qui revient sur le petit rythme des Merlus en première période.
Non, après le but, ça nous a surtout tous secoué, je pense, pour se réveiller et repartir sur notre base. On était en retard sur nos temps de pression, on était en retard dans nos sorties de balles, on perdait des ballons bêtement. On avait du mal à imposer notre rythme, d'emballer le match. C'est vrai que ça jouait sur un petit rythme et on sait que clairement ça leur va bien parce qu'ils ont un jeu de possession où ils ont tendance justement un petit peu à endormir l'adversaire et puis à piquer quand il faut. Donc voilà, on savait que nous, de toute façon, c'est notre force. Dès qu'on est un petit peu attentiste, on voit qu'on n'est pas performant. On sait, on a besoin de mettre de l'intensité dans nos matchs. Donc voilà, il a dit qu'il fallait faire beaucoup plus. Qu'il fallait aussi pas s'affoler parce qu'il y avait qu'un zéro. Pas complètement se découvrir et partir à l'abordage et se faire tuer en contre.
C'est là on voit que parfois, quand il y a des équipes du niveau de Lorient qui performent, on dit parfois qu'elles surperforment.
C'est vrai.
Qu'elles sont à 110, 120%. Si vous êtes à 90%, même si c'est Clermont en face et que Clermont n'arrivait pas avec toute la confiance possible, eh bien ça se voit très vite.
Oui, ça se voit très vite et ça a été le cas, hein, sur la première mi-temps, très clairement. Lorient n'a jamais eu ce que disait Laporte, hein, ce rythme-là, n'a jamais trouvé non plus vraiment les relais qu'il y a habituellement, et notamment au milieu de terrain, parce qu'il manquait un homme hier, c'est Laurent Abergel. C'est un peu l'homme à tout faire dans ce milieu de terrain, il récupère beaucoup de ballons, il a, je trouve, une activité de plus en plus importante aussi au milieu, et là, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé ce relais. Alors c'était Monconduit, Lefebvre, Lemoine, les trois milieux de terrain. On n'a pas vraiment retrouvé ce profil-là, alors qu'aurait dû sans doute plus peut-être incarner Thomas Monconduit. Ça a été difficile, surtout sur la première mi-temps. Ça a été mieux en deuxième, mais sur la première, ça a été délicat. Ça a pêché au milieu et Julien Laporte d'ailleurs revient sur l'absence d'Abergel et le fonctionnement de ce milieu de terrain.
On le sait que c'est Lolo, il nous amène justement un peu cet impact. En termes de course, il a un gros volume, il ratisse beaucoup de ballons. Après Enzo et Moncon ont fait un bon match aussi au milieu, mais on sait que lui a cet aspect là où c'est peut-être lui qui nous amène justement, qui nous amène ce volume en termes de course. Maintenant on a vu qu'au milieu on s'en est sorti après, quand on a commencé tous à repartir dans le même sens, ça a été plus facile pour eux au milieu. On n'arrivait pas à sortir les ballons de derrière, donc pour eux c'était aussi compliqué au milieu de pouvoir poser le jeu et de jouer. Et du moment où on a remis un peu cette densité, on va dire, collective, ça a été plus simple.
Ouais, ça a été plus simple et ça a permis notamment l'égalisation. Juste avant une petite page de pub, on vient d'avoir d'ailleurs des nouvelles de Mofi et de Lefebvre grâce à nos confrères de
Ouest
France.
On va en parler tout de suite. Ouais.
Et on en parlera juste après cet écran publicitaire.
Parce que la vie n'a pas de prix, la chaîne de l'espoir se bat depuis plus de 25 ans pour le droit à la santé des enfants de pays défavorisés. Notre pari sur l'avenir devient une réalité. Mais il reste beaucoup à faire. Parce que les enfants sont notre avenir. Vous pouvez faire un leg ou transmettre une assurance via la chaîne de l'espoir. Ensemble, agissons pour que notre investissement pour la vie soit une victoire.
Demandez notre brochure sur chaînedelespoir.org ou au 01 44 12 66 80. 01 44 12 66 80. Prix d'un appel local. We'll be right back.
Voilà, retour du magazine des déchaînés du football en direct sur Radio Bonheur. 19h46, on continue de parler de Lorient. Lorient qui a fait match nul contre Clermont au Moustoir ce week-end.
Ouais, Lorient accroché un but partout et qui a dû voir ses milieux de terrain et attaquants Lefebvre et Mofi sortir sur blessure dans ce match. On a donc eu des nouvelles de Lorientais grâce à nos confrères de West France. Ils ne partiront pas en sélection puisque Terem Mofi, qui se plaint d'une entorse acromio-claviculaire, est en soin cette semaine, précise le FC Lorient. Et puis Enzo Lefebvre est fort en fait pour les deux matchs, il souffre d'une contusion musculaire au quadriceps gauche pour être précis, et donc n'ira pas avec l'équipe de France Espoir. Les deux hommes vont donc rester à Lorient. Alors les blessures annoncées laissent peut-être quand même présager d'un retour assez rapide de ces deux merlus, notamment de Mofi qui restera
blessé mais pas trop grave
cette semaine. Donc voilà, c'est pas trop grave, on n'annonce pas un mois ou deux d'indisponibilité, donc ça devrait revenir assez vite. C'est évidemment une bonne nouvelle pour les Merlus parce que ce sont quand même deux joueurs clés du dispositif de Christophe Pélissier, même si hier, c'est vrai, les attaquants Mofi Lorienté ont été dans un rôle un peu plus compliqué, notamment sur le plan défensif où ils n'ont pas répondu aux attentes sur la première mi-temps de Christophe Pélissier. Écoutez l'entraîneur des Merlus.
Moi je regarde les joueurs qui étaient là surtout, le premier rideau a été moins bon que ce qu'il est d'habitude, donc à commencer par les attaquants. On n'a pas récupéré les ballons là où on souhaitait les récupérer, et là souvent où on les récupère et qu'on puisse faire mal derrière. Donc c'est un ensemble, c'est pas un joueur, même si Lolo, on connaît la qualité de Lolo et l'énergie qu'il amène à l'équipe. Voilà, il fait partie de ceux qui se sont reposés aujourd'hui, donc il va nous amener sur les prochains matchs.
Ouais, il faisait là aussi référence à Laurent Bergel qui a manqué dans l'entrejeu. Malgré tout, c'est vrai que le problème majeur ne venait pas forcément, selon Christophe Pélissier, du milieu de terrain, mais plutôt du premier rideau, comme il l'appelle, avec Mofi et Lorienté qui était un peu plus en difficulté déjà aussi sur la relance des Clermontois. Mofi Lorienté qui évidemment maintenant sont ciblés, connus par les adversaires, parce que Lorienté cette saison confirme aussi ce qu'il a entrepris l'année dernière. Il en est à 3 buts là depuis le début de la saison. Mofi, c'est 14 buts l'année dernière. Ils sont attendus maintenant par les adversaires, et c'était le cas contre Clermont, puisque Pascal Gassien avait non pas préparé un plan anti-Mofi Lorienté, mais avait demandé à ses joueurs de bien les cerner. Écoutez-le.
Déjà, on sait que ce sont deux joueurs qui vont très vite, donc on ne voulait pas surprendre sur la profondeur. Après, je pense que nos milieux et l'ensemble de l'équipe a été beaucoup plus compact que les derniers matchs qu'on a fait à l'extérieur. Donc voilà, pour les défenseurs, c'est toujours plus facile de défendre. On était plus nombreux.
Ouais, ils étaient plus nombreux, il y avait une grosse densité parce qu'il y avait deux milieux de terrain défensifs en plus, hein. Johan Gassien, le fils de l'entraîneur, et puis Salis Abdoul Samed qui venait aussi colmater ce milieu de terrain de Clermont. Donc c'était pas évident pour le FCL de passer par l'axe, et malheureusement sur les côtés ça n'a pas non plus toujours été facile avec des merlus un petit peu empruntés. Malgré tout, Lorient reste sur une série de 6 matchs sans défaite et toujours invaincu à la maison, et puis est en 7ème position avec 14 points, ce qui est plutôt pas mal en 9 matchs.
Oui, parce que le premier relégable c'est Metz avec 6 points, 8 points d'avance donc sur le premier relégable. C'est confortable pour l'instant pour les Merlus. Très bon début de championnat.
Oui, très bon début de championnat. Une seule défaite sur les 9 journées. C'était à Montpellier. 3 buts à 1. 3 victoires toutes à domicile. Ce qui
là, il y a une
un
série quand même. Ça fait un moment que Lorient n'a pas perdu.
Ah, ça fait 6 matchs. 6 matchs. Donc, c'était la 3ème journée, la défaite. Donc, c'était vraiment mi-août.
Ouais, au tout début.
Donc, ça fait quand même maintenant un petit moment que les Merlus ne perdent plus. Ce qui pêche un peu, en revanche, c'est l'extérieur. Toujours pas de victoire en déplacement.
Ah oui, on attend la première victoire à l'extérieur avec impatience. Hein. Ça fait un an quasiment que les Merlus n'ont pas gagné à l'extérieur.
C'est assez incroyable, alors qu'à domicile, ils ne perdent pas. Ils ne perdent plus parce que là, ils n'ont pas gagné.
Ils gagnent souvent.
Ils sont toujours invaincus et ils gagnent souvent en plus chez eux. Le reste du classement avec ce championnat toujours dominé par le PSG malgré sa défaite.
Ouais, un petit mot sur Rennes quand même, parce que ça a été la surprise de ce week-end.
Ouais.
On savait qu'un jour ou l'autre, les Parisiens allaient perdre, Pierre, mais.
Mais alors que ce soit les Rennais qui fassent chuter le Paris Saint-Germain, quand on voit le début de saison en plus de Rennes, c'est la surprise.
Oui, surprise, mais quand même, Rennes a dépensé plus de 80 millions dans le mercato. C'est une équipe européenne depuis 3-4 ans maintenant, donc c'est pas non plus.
Oui, ça va mieux depuis 2-3 matchs, mais quand même, le début de championnat a été laborieux.
Ouais, mais depuis quelques matchs, ils séduisent dans le jeu. J'ai pu voir avec attention leur match à Bordeaux la semaine dernière. Ils font un partout, mais ils doivent gagner 3-0. C'est une équipe qui est en train de progresser. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu une équipe qui n'a pas eu peur de Paris, qui est la bête noire de Paris depuis près de 10 ans maintenant, parce que ça fait 5-6 fois que Rennes bat le PSG. Et surtout, Paris a beaucoup de lacunes. Ok, ils ont des stars dans tous les sens, on le sait, mais il y a énormément de lacunes parce que Neymar, Mbappé, Messi, Di Maria ne défendent pas, donc les autres défendent à 7 ou 8 et notamment sur les côtés il y a énormément d'espace et Rennes a parfaitement su les trouver, les piéger sur ces côtés. Alors Messi touche quand même la barre à 0-0, si Paris marque là on ne sait pas ce qui arrive, mais c'était absolument pas usurpé de voir Rennes marquer, et parce que Paris, d'accord, avait fait 7-7 ou 8-8
8-8.
Il y avait quand même pas mal de victoires arrachées par les cheveux. Donc
oui, sur le fil, en fin de match.
À Metz, voilà. Notamment.
En fin de match, c'est arrivé
contre
souvent.
Contre Lyon. Voilà, c'est bien d'avoir vu une équipe qui n'a pas gagné par hasard contre Paris. C'était vraiment construit. Ils ont... Et c'est bien maintenant. Il faut que Rennes remonte. Voilà, il y a des clubs comme ça qui séduisent. Lyon, Rennes notamment. Il faut que ça remonte un peu plus au classement maintenant.
Bonne performance des Nantais aussi qui ont gagné. Bon, contre des Troyens qui jouent le maintien. Mais quand même, voilà, Nantes qui jouait il y a quelques mois comme Lorient ou comme Brest le maintien, bah voilà, c'est une bonne surprise comme Lorient.
Ouais, puis 3 victoires sur les 4 derniers matchs pour le FC Nantes, battu à Reims la semaine dernière, mais avant cela, il y avait eu 2 victoires à Angers contre Brest et donc maintenant contre 3, 2-0 hier. 3 qui démarre péniblement aussi cette saison de Ligue 1. Les Nantais, eux, sont 9e avec 13 points, donc un petit point derrière le FC Lorient. Pendant que, bon, on disait le PSG est en tête, Lens qui continue de carburer vraiment sur sa dynamique. 18 points, 2e.
Surprenant. Et déjà l'année dernière, on avait été surpris de la très bonne saison des Lensois. Ils revenaient en Ligue 1 et là, ils confirment.
Oui. Il confirme. Et puis dans le bas de tableau, eh bien on a toujours le FC Metz 18e parce que Metz a perdu dans le tour additionnel finalement.
Contre Angers.
Brest qui est juste en dessous avec 4 points, comme Saint-Etienne dernier après son match nul contre Lyon dans le derby hier soir. Et donc les Brestois qui sont désormais à 2 points du premier non relégable.
On va marquer une petite pause, messieurs. On vous retrouve dans un instant. On va parler du championnat de national.
Et de la Coupe de France.
Et de la Coupe de France dans un instant.
Méné. Souvent, les matins, c'est une succession de...
Papa !
Quand soudain... Découvrez des sensations inédites au volant de la nouvelle Mini électrique. Édition suréquipée à partir de 325€ par mois, sans aucun apport. Exemple pour une nouvelle Mini électrique LLD 36 mois, valable jusqu'au 31 décembre 2021. Conditions sur mini.fr. Méné.
Dites donc, Fanfaron, qu'est-ce que c'est que ce nouvel abri devant votre maison, là ?
Bonjour, Chantal. Moi aussi, je suis ravi de vous voir. Il s'agit de mon carport Akena. Il a été fait sur mesure pour s'adapter à ma voiture. Comme ça, elle est protégée des intempéries et moi aussi.
Un carport Akena ? Mais c'est très chic, dites-moi. Et vous y mettez votre camping-car, je suppose ?
Je vous emmène faire un tour, Chantal.
Non, ça va, merci.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Alors, cette rentrée ? Super, morale à 100% et convaincue à 100% par la Suzuki hybride de mon fiancé.
Ah oui ? Raconte.
Une rentrée 100% hybride chez Suzuki, à partir de 99€ par mois, entretien inclus.
Pour passer à l'hybride, passez chez Suzuki. Inis Hybride Avantage, location longue durée, 37 mois, 30 000 km, à partir de 99€ par mois, après premier loyer de 1990€, prime à la conversion de 1500€ déduite. Entretien inclus, valable jusqu'au 15 novembre 2021, si accord Arval Service Lease. Détails sur suzuki.fr.
Chez Signia, nous savons que votre audition est précieuse. Elle vous permet d'être libre. Libre d'échanger, de partager, de vous épanouir. Depuis 140 ans, Signia développe des aides auditives de haute technologie. Invisibles, connectées, rechargeables et au design incomparable. Pour redécouvrir le plaisir d'entendre, pour une vie riche, active et audacieuse, pour votre bien-être, Signia, fabricant d'aides auditives. L'audition, c'est Signia. Rendez-vous sur signia.net, dispositif médical CE.
Entrepreneur, conquérir, c'est grandir. Participez à la 7e édition de BIG, BPI France Inno Génération. Plus de 400 ateliers, conférences et masterclass. Une journée pour comprendre les enjeux de demain et développer votre business et votre réseau. Rendez-vous le 7 octobre à l'Accor Arena Paris. Plus d'infos sur big.bpifrance.fr.
En partenariat avec les Indes
Radio. Radio Bonheur, 19h56, dans quelques minutes, la dernière demi-heure où nous parlerons de Guingamp entre 20h et 20h30. Nous parlerons de l'En Avant Guingamp. Auparavant, un mot sur les clubs amateurs, clubs de national et sur cette fameuse Coupe de France.
Oui, dans quelques instants, nous aurons avec nous Marvin Luciat, le milieu de terrain de la GSI Pontivy. Avant cela, un petit mot sur le national. Défaite des Briochins vendredi soir à Bourg-en-Bresse, 2-0 chez le leader pour Saint-Brieuc, qui est désormais premier relégable. Et victoire, en revanche, de l'US Concarneau face à Créteil, 1-0, avec un but de l'ancien Lorientais Maxime Etuin en première période. À noter l'expulsion d'ailleurs d'Axel Hurier, qui évolue en équipe réserve à Guingamp l'année dernière. Au classement, donc, on le disait, les Briochins sont premier relégable, c'est-à-dire 14e dans ce championnat de national avec 9 points. Ils n'ont d'ailleurs toujours pas marqué à l'extérieur cette saison, les hommes de Didier Santini. Et Concarneau, de son côté, est 6e avec 15 points, à 2 points du podium. Mais ce soir, Annecy, le 3e, reçoit Villefranche, le 2e. Donc ça va forcément bouger un petit peu dans ce haut de tableau de national. La Coupe de France également animée ce week-end et notamment en Bretagne avec la GSI Pontivy qui pour le 4e tour jouait contre le Stade Pontivien. Il y avait déjà un gros choc de National 3 dès le 4e tour. Et pour revenir sur ce match, avec nous le milieu de terrain de la GSI Pontivy, Marvin Luciat. Bonsoir Marvin.
Bonsoir.
Alors il y a eu cette victoire 2-0, Duclovel à la 27e et Eke à la 55e vous ont offert la victoire. Qualification maîtrisée face au rival pontivien?
Oui, globalement c'est vrai qu'en termes de contenu c'est une victoire qui est quand même méritée et maîtrisée. Bon, voilà, les 2-0 c'est un score logique.
Oui, un score logique. On sait que déjà sur le début de saison, la GSI a mieux démarré aussi son championnat que le stade pontivien. Il y avait 1200 personnes au Faubourg de Verdun. Ce n'est pas rien pour un 4e tour, ça.
Non, en effet. Après, c'est vrai que les derbies pontiviens sont réputés pour être assez animés. Il y a pas mal de monde, ça attire pas mal de monde sur le bassin pontivien. Donc là, en plus de ça, la plupart des équipes jouent le dimanche. Nous, notre match a été avancé au samedi soir, donc ça a permis à ce que un maximum de personnes puissent venir assister à ce beau choc.
Marvin, une petite page de pub, les infos, et on revient tout de suite pour la suite de l'interview.
Les infos de 20h sur Radio Bonheur, juste après retour du magazine des déchaînés du football. À tout de suite. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Après l'Ouest ce week-end, le Sud-Est est frappé depuis hier soir par de très violents orages avec des cumuls d'eau inédits, notamment dans les Bouches-du-Rhône. En prévision d'un deuxième épisode extrêmement intense prévu cet après-midi, les établissements scolaires ont été fermés dans le département et les déplacements étaient déconseillés jusqu'à 19h. Des restrictions similaires ont été prises dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Plus d'une centaine de personnes ont été évacuées à Marseille. La ville a précisé dans un communiqué que 123 personnes ont déjà été évacuées de zones à risque par prévention ou suite à des sinistres déjà constatés. 4 gymnases municipaux et 16 studios ont été mis à disposition pour la prise en charge de ces personnes. C'est ce qu'a encore précisé la ville. A noter par ailleurs que près de 500 pompiers ont été mobilisés dans le Var et ont réalisé près de 200 interventions dans l'ouest et le centre du département. Ces interventions ont concerné des mises en sécurité de personnes bloquées dans leurs véhicules, des opérations de pompage de locaux également. 6 départements sont placés en vigilance orange, sont concernés par cette alerte pluie inondation, les Alpes-Maritimes, les Alpes de Haute-Provence, la Haute-Corse, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Plus aucun département n'est donc en vigilance rouge. Il était prévu que l'Agence européenne des médicaments, l'EMA, prenne position concernant les doses de vaccins de rappel début octobre, pas forcément qu'elle l'approuverait pour tous les adultes. C'est pourtant ce qui ressort de son communiqué paru ce lundi après-midi. Après avoir analysé en détail l'ensemble des données médicales dont elle avait connaissance, l'EMA estime qu'une dose de rappel de vaccin Pfizer peut être envisagée au moins 6 mois après la deuxième dose pour les personnes âgées de 18 ans et plus. Concernant Moderna, l'autre vaccin ARN messager administré en Europe, l'évaluation est toujours en cours, mais il est probable que le résultat final soit le même. Le but est de booster le taux d'anticorps et donc l'immunité. Pour les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, une dose de rappel peut être administrée au moins 28 jours après leur deuxième dose. C'est ce qu'ajoute encore l'EMA.
Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. L'une d'entre elles est la plus belle. Elle sait bien dire papa, maman. Quant à son frère, il peut prédire. Avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Je vais vous les présenter. Chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Petit clown qui nous fait rire. Même Alexa, cette pauvre bête, oublie qu'elle a toujours pleuré. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Elles sont jolies, les mignonnettes. Elles vous diront que je suis leur ami, que je suis leur ami.
Allez, retour du magazine des déchaînés du football, 20h04. On continue de parler de cette fameuse Coupe de France et de la GSI Pontivy qui s'est qualifiée.
Oui, contre le rival du stade pontivien de club de National 3 avec nous, donc Marvin Luciat, hein, le milieu de terrain de la GSI. Marvin, l'année dernière, vous étiez tombé contre Vannes, club de National 2, au 4e tour. Là, vous venez d'affronter le stade pontivien, club de National 3. Que de gros tirages, décidément. Quel type d'adversaire souhaitez-vous au prochain tour?
C'est compliqué à dire. Disons que on espère toujours avoir un tirage un peu plus clément. Maintenant, c'est vrai que la Coupe de France chaque année montre qu'il y a des surprises, des clubs de district, des clubs de régional qui éliminent parfois même des clubs de national. Donc, on prendra le tirage qui viendra. Après, c'est sûr que forcément, quand on tombe un tirage de N3 ou de N2, c'est toujours plus compliqué. Les chances sont peut-être un peu plus réduites. Maintenant, il n'y a pas de tirage facile et on prendra ce qui viendra.
Oui, d'autant que vous êtes toujours invaincu cette saison, en championnat comme en Coupe de France. On connaît évidemment les ambitions aussi de monter en National 2 pour la GSI. C'est possible, quand on a ces objectifs-là, d'être ambitieux sur les deux tableaux, la Coupe de France et le championnat?
Ce sont vraiment deux compétitions, sur le championnat ou la Coupe, qui sont vraiment, c'est différent. Honnêtement, oui, parce que quand on a des ambitions, on espère toujours tout jouer à fond et puis tout gagner. La Coupe de France, c'est vraiment quelque chose que moi j'affectionne. C'est à part, c'est voilà, ça procure beaucoup plus d'émotions. On espère tous un jour jouer contre les clubs professionnels, les joueurs professionnels. Donc forcément qu'on a envie d'aller le plus loin possible. Et faut pas oublier le championnat qui est quand même mine de rien une priorité, surtout quand on a des ambitions. Donc on va essayer de jouer tous les coups à fond et puis d'être concentré sur les deux compétitions.
D'autant qu'on dit souvent que la Coupe de France appartient un peu aux joueurs quand le championnat appartient à l'entraîneur. C'est souvent la phrase qu'on entend. Est-ce que c'est un peu le même discours à la GSI ? Est-ce qu'il y a un peu plus de liberté laissée par le coach aussi sur cette compétition ?
Bah, le coach est très... il est très exigeant. Il n'y a pas forcément de plus de laisser aller sur la Coupe de France. Il est aussi ambitieux, donc il espère qu'on aille aussi le plus loin en Coupe de France. Donc même parfois, on peut voir quelques équipes qui font un petit peu tourner. Non, il essaye d'aligner toujours la meilleure équipe possible avec le groupe. Donc s'il doit faire des changements parce qu'une personne est plus en forme qu'une autre, il le fera. Je dirais que sur les deux compétitions, il reste le même.
Eh bien, merci beaucoup, Marvin Luciade, d'avoir été avec nous pour revenir sur cette qualification de la GSI Pontivy. Et on surveillera évidemment le tirage mercredi.
C'est gentil, merci beaucoup.
Merci, bonsoir.
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 Et après la Coupe de France, eh bien la Ligue 2.
Oui, ça joue aussi avec l'en avant Guingamp.
À noter juste avant de parler de cette victoire, notez qu'on est monté crescendo dans ce magazine, hein, défaite puis victoire. on viendra sur tous les scores, les principaux scores dans la rubrique de demain. 22, 56, 29, vous aurez bien en détail les résultats de ce tour de Coupe de France. Je vous en prie pour la Ligue 2, mon petit Gaëtan, notre porte-bonheur à Roudourou. Ça y est, on a enfin trouvé ce qui clochait à Guingamp.
Eh oui, 100% de victoire pour moi à Roudourou, au micro cette saison avec ce succès de Guingamp contre Rodez. Samedi soir, 2 buts à 1. Guingamp qui avait concédé 2 matchs nuls et 2 défaites sur sa pelouse jusqu'à présent. Guingamp qui n'a pourtant pas fourni son meilleur match, notamment à la maison cette saison, mais qui malgré tout a pris les points cette fois et cette victoire de 1 contre Rodez. On écoute en musique ce qu'il s'est passé samedi soir à Roudourou. Il est parti cet été après une saison dans l'Aveyron. Attention à ce centre, Buades qui remet dans la boîte et la volée ensuite de notre ami Florian David, me semble-t-il, qui a repris ce ballon et s'est passé au-dessus finalement. La Chiba, pourquoi pas avec Mshangama, c'est parti dans la surface, le centre vers Pierrot, et but de Guingamp. France dit Pierrot sur la cinquième passe décisive de Youssouf Mshangama, la première percée guingampaise termine au fond. Quatrième minute de jeu et les plans de Rodez déjà mis à mal parce qu'ils avaient préparé ce match pour bloquer Youssouf Mshangama. Et après 4 minutes de jeu, Mshangama passeur pour Pierrot buteur, 1-0 pour Guingamp. Entre les lignes avec Johan Obiang, centre d'Obiang, c'était vers David un petit peu court, l'attaquant ruthénois pour reprendre de la tête et à l'opposé, qui vient défendre, c'est Faïton, sauf qu'il perd le ballon dans sa relance, le centre ensuite et l'égalisation, Clément Després qui égalise pour sa première occasion, après 9 minutes de jeu, Rodez revient déjà au score, et tout cela après une perte de balle de Faïton qui avait pourtant fait l'effort pour venir défendre, sauf que dans sa relance, il a perdu le ballon et à l'arrivée, ça termine au fond sur ce centre. Là, le marquage est un petit peu laxiste aussi et ça termine au fond. Voilà Rodez qui recolle déjà à Guingamp. Non, peut-être là avec Barthélemy. La frappe elle est captée finalement par Mpassi. Ah, le mouvement était bon et sur cette passe en retrait là vers Barthélemy. Un joli travail de Guingamp sur le côté droit. Barthélemy qui a conclu par cette frappe peut-être un petit peu trop écrasée. Allez, pourquoi pas insister, Faïton, faut en faire plus là, Barthélemy qui est trouvé à l'entrée de la surface avec Sivis dans la surface, frappe et but, Maxime Sivis, mais cet homme-là marque à chaque match à Roudourou, deux matchs à domicile et deux buts pour le latéral de Guingamp, à chaque fois sur son côté
pied droit avec une frappe croisée. Maxime Civis, deux matchs à Oudourou, deux buts. Et Guingamp reprend l'avantage devant. Tient bon, mais Guingamp n'a que très peu de maîtrise. Et Civis qui perd un ballon, il réclame une faute, sauf qu'il n'y en a pas d'après l'arbitre. Et derrière, c'est un 3 contre 1, centre de Buanès, deuxième poteau, il y a du monde. Mais c'est trop profond pour Hugo Bonnet. C'est trop profond pour Hugo Bonnet. Guingamp n'est pas passé loin de la correctionnelle. Danger dans le cœur du jeu à 35 mètres. La frappe de Danger, juste au-dessus de la cage de Basilio qui était sur la trajectoire. Voici balle au pied, c'est enroulé, la tête finalement de Roux pour dégager ce ballon et la contre-attaque pour Guingamp avec Youssouf Mchangama. Allez, les Ruthénois reviennent très vite, mais Guingamp accélère le tempo. Mchangama pour Mehdi Merghem, pas de hors-jeu. Merghem qui va frapper, c'est capté par Lionel Mpassi. De temps additionnel. Oh, Merghem, ça passe jusqu'à Livolan, ce ballon à l'opposé de la surface. La frappe de Livolan, elle est repoussée par Mpassi et derrière, il vient le capter en deux temps ce ballon. Victoire de Guingamp, le banc et le stade qui exultent. Guingamp l'emporte à domicile pour la première fois de la saison. Victoire face à Rodez, 2-1, grâce à Pierrot et Civis.
Et troisième but au total. Et troisième match gagné au total, oui. pour les Guingampais. Deux victoires à l'extérieur, une à domicile, ouf. Et c'est bien aussi, oui. pour les spectateurs quand même.
Et oui, parce qu'ils ont enfin pu communier avec les joueurs. La dernière fois qu'il y avait pu avoir ça, c'était il y a presque un an, puisque les dernières victoires c'était sans public. Et la dernière fois où il y a eu une communion avec 100 jauges dans le stade, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un an c'était avec 5000 personnes seulement, ça remonte à février 2020 contre Lorient. Ouais. Un an et demi, c'est quelque chose qui avait presque disparu de nos esprits. On ne savait plus trop que ça existait. Un poids en moins donc pour en avant avec cette première victoire à domicile. Et écoutons d'ailleurs le premier buteur de la soirée, Franz Di Piero, qui revient sur ce soulagement et sur cette communion avec les supporters.
Pour nous, ça fait du bien. Pour les supporters aussi, parce que eux, on sait que c'était pas facile pour eux et pour nous aussi, parce que chez nous, on veut gagner tous les matchs. Et quand nous, on a pas gagné les matchs chez nous, c'est difficile, parce que tu vois que les supporters, ils sont là, ils donnent toutes les énergies et tout pour nous, et on gagne pas ces matchs, c'est un peu difficile pour nous, mais aujourd'hui, j'espère qu'ils sont contents et déjà, ils sont heureux. Oui, c'était compliqué avec le Covid et tout. Et ça fait du bien que les supporters puissent venir au match, parce qu'avec eux, ça me donne plus la motivation et plus d'énergie, parce que nous, on a besoin de tous les supporters. C'est grâce à eux qu'il y a les matchs, c'est grâce à eux qu'on peut marquer un but, ou on peut faire quelque chose, parce qu'ils ont donné l'énergie.
Soulagement de Franz Di Piero.
Oui, soulagement, parce que c'est vrai que il n'y avait pas eu beaucoup de victoires non plus à domicile l'année dernière. D'ailleurs, en 2021, c'est seulement la troisième. Il y a eu Chambly, il y a eu Châteauroux, et maintenant donc Rodez cette saison pour Guingamp. Paradoxalement, Pierre, c'était pas le meilleur match de Guingamp à domicile. Ça avait été mieux contre Sochaux, par exemple. Mais les points, ils sont là contre Rodez.
C'est tout le paradoxe du football. On en parlait avec Brest tout à l'heure, qui aurait dû perdre peut-être 3 ou 4-0 et qui n'a perdu que 2-1. Mais ce qui est très important, déjà, alors premièrement, c'est que Guingamp a débloqué son compteur victoire à domicile. Donc on ne parlera plus pendant un petit bout de temps de ces victoires qui n'arrivent pas à Oudourou. On espère maintenant qu'ils pourront enchaîner. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de gagner effectivement ce genre de match dont beaucoup auront oublié l'existence dans 3 mois, je pense. On posera la question aux supporters. Je pense que 80% d'entre eux ne se souviendront plus de ce Guingamp-Rodez, parce que on ne tient pas franchement une action. Non. Il y a eu la super passe de Barthélemy, mais ce sont des matchs qui font partie de l'histoire d'une saison. Et quand ça se passe bien, eh bien, il faut des victoires entre guillemets banales. C'est vrai que celle à Auxerre et à Paris, surtout celle à Auxerre, ont marqué les esprits, parce qu'Auxerre, c'est un Cador. Ils étaient invaincus, ils jouent bien, donc ça avait marqué un peu les esprits.
C'était la première en plus.
c'était la première. Et là, voilà, Rodez, Guingamp doit gagner ces matchs-là. Ouais. Guingamp ne le faisait pas depuis des mois et des mois, hein, domicile, ces matchs contre des équipes a priori à la portée. Il n'ouvrait pas le score. Là, ça a été le cas, alors que pourtant, là aussi, paradoxalement, c'était pas un bon début de match de Guingamp, mais ils ont réussi à marquer en premier. Et puis, voilà, Rodez est revenu. Mais à partir du moment où vous avez ouvert le score, eh bien, il ne faut pas grand-chose. Voilà, vous réaccélérez. Il y a eu quelques occasions, quelques bons mouvements. Il n'y a pas eu une forte maîtrise. Je crois qu'on y reviendra bientôt, oui. Gaëtan. Mais voilà, il y a eu ce deuxième but. Guingamp était allé arracher, a fait basculer le match en sa faveur. Et ça, c'est ce qu'il n'arrivait pas à faire sur des matchs qu'il a beaucoup plus dominés. On pense aussi à QRM la semaine d'avant. Donc ça, c'est encore un signe de progrès de cette équipe.
Et une énergie positive drainée grâce à cette victoire au sein du groupe. C'est ce qu'a exprimé Stéphane Dumont après le match.
Je ne sais pas. Après, ça reste qu'un match. Voilà, tout match demande confirmation. Ce qui est important, c'est d'avoir des séries. Mais oui, c'est toujours agréable, notamment avant une trêve, parce que on n'a pas beaucoup de sélectionnés, mais ça va nous permettre de la vivre plutôt sereinement, de continuer à travailler pour enchaîner ensuite sur les prochains matchs qui arrivent, et ça nous permet de encore une fois d'avoir une énergie positive. Pour ces prochains jours.
C'est vrai qu'elle arrive au bon moment, finalement, cette première victoire, parce que, comme il le dit, l'entraîneur Guingampais, elle arrive juste avant une trêve. Ça permet de ne pas gamberger pendant la trêve. On n'a toujours pas cette victoire à domicile. Quand est-ce qu'elle va venir? C'est vrai que là, voilà, ce problème-là est réglé. On peut passer à la trêve tranquillement. Comme il le disait, il n'y a pas beaucoup de sélectionnés. Donc, en plus, ils vont quasiment tous rester à Guingamp.
Il y a Camara et Kathleen, je crois.
Et Ndenbe.
Denby avec la Belgique,
ouais,
c'est vrai.
Ils sont trois.
Ils sont trois, donc voilà, ils ne sont pas nombreux. Ils vont donc quasiment tous rester à Guingamp pendant cette trêve. Et c'est vrai que l'ambiance va être au beau fixe, hein, avec la situation déjà générale qui est beaucoup plus positive depuis quelques semaines, avec cette victoire à domicile. Voilà, les signaux sont plutôt ouverts.
Bah, depuis plusieurs semaines, ils sont ouverts quand même, hein, depuis le début de cette saison.
Oui.
Et puis, ce qui a été l'une des images du soir aussi, Franz Di Piero en parlait tout à l'heure, c'est la communion avec le public, parce que même après des matchs où il y a eu des nuls ou des défaites, notamment après contre Sochaux, il y a toujours eu, voilà, des applaudissements, les joueurs qui ont fait le tour du stade pour aller saluer leurs supporters. C'est rare, hein, pour fréquenter Gaëtan les stades de Ligue 1, Ligue 2 depuis plusieurs années, c'est rare de voir même les soirs de défaite les supporters aller saluer toutes les tribunes une à une. Et là, évidemment, revoir cette scène de joie avec les jeunes, là, les fêtons, etc., qui sont allés communier, un peu comme faisait Blas aussi à un moment en Ligue 1 devant le Cop Rouge, ça on en avait besoin. Et là aussi, un indicateur, c'est quand vous voyez donc les joueurs qui sont arrivés devant le Cop, plus ceux qui n'étaient pas là, parce que j'ai cru voir Abi, Bilingi et Muyumba notamment, trois joueurs qui n'étaient pas là, ça c'est un signal aussi. Donc je crois que c'est Dominique, tout à l'heure vous avez dit que les signaux reviennent au vert pour Guingamp, mais voilà, c'est bien. Alors au classement, voilà, Guingamp reste dans le ventre mou, mais...
Ah oui, mais pas loin du Paris Football Club, par exemple, à 3 points du PFC, qui est 6e.
Mais ce qui est intéressant, c'est...
Il y a énormément d'équipes à 14 et 15 points. Il y a un gros ventre mou entre la 7e, là, et puis la 15e place. Il y a un énorme ventre mou où on retrouve 8-9 équipes à 14 ou 15 points.
Mais dans ce chantier dont on parle depuis des semaines et des semaines, et qui est enfin arrivé, dont on a déjà senti les contours avec l'arrivée de Dumont, là on sent que brique par brique, c'est en train de se construire. Et ça, c'est une nouvelle étape, ce qui s'est passé samedi.
Oui, une nouvelle étape. Et justement, dans ces briques qui se superposent semaine après semaine, eh bien, il y a notamment celle du banc de touche. Je crois qu'il y aura une rubrique cette semaine, Pierre, consacrée à cela, parce qu'on l'évoque rapidement, mais il a changé de banc de touche, Stéphane Dumont. Et sans en dévoiler trop les secrets, c'est justement pour corriger des petits détails, amener des petites nouveautés dans le fonctionnement de Guingamp. On sait que le banc de l'autre côté a été très souvent utilisé ces dernières saisons, avec plus ou moins de réussite, un peu moins d'ailleurs ces derniers temps. Voilà, il veut apporter des petites nouveautés sans tout révolutionner, l'entraîneur, mais apporter quelques nouveautés.
Ouais, alors de l'extérieur, il y en a certains qui disent mais ça c'est de la pipe, qu'est-ce qu'ils sortent avec leur banc de touche. Mais vous savez pas, des fois c'est un petit détail plus un petit détail plus un autre petit détail. Et ça amène ce cercle vertueux. Ça paraît pourtant sans importance.
Oui, mais, oui, mais parfois, ça peut faire basculer. Alors, c'est ça, plus ça, plus ça. Ça va pas être juste le changement de manteau qui va tout révolutionner, évidemment.
Sinon, ce serait facile.
On écoute d'ailleurs l'entraîneur Guingampais qui revient en revanche sur la difficile maîtrise du match, parce que c'est vrai que ce match n'a pas été le plus abouti de la part de Guingamp.
Ouais, ça nous a coupé. Bah, ça nous a un peu coupé dans notre élan. On a bien entamé. Et puis, on prend un but un peu bête. La première fois qu'ils viennent chez nous. Donc oui, frustrant. Ça nous a un peu. Ouais, ça nous a fait un peu cogiter. Et donc, du coup, il y a eu un passage où l'équipe s'est retrouvée un peu entre deux eaux. Mais par contre, voilà, on a rectifié les choses tranquillement à la mi-temps et en repartant avec de bonnes intentions. On a tout de même mis de beaux jolis buts dans leur conception. Sur ces derniers matchs, voilà, ces mouvements combinés sont plutôt intéressants et c'est toujours important, toujours intéressant. Et oui, sur cette fin de match, bah, quand on mène à domicile, quand on n'a pas encore gagné chez nous, oui, forcément, il y a le côté défendre sa cage qui vient naturellement, même si on a eu des opportunités d'essayer d'aller mettre le troisième.
Ouais, des opportunités que Guingamp n'a pas réussi à conclure, mais en revanche, Guingamp a quand même tenu derrière. Une dernière page de pub dans ce magazine des déchaînés du football, et on revient pour la dernière ligne droite avec l'en avant Guingamp.
Il y a des gens qui remettent toujours le bricolage à plus tard. Mais le jour où ils s'y mettront, leur bon réflexe, ça sera manomano.fr. Ils y trouveront de quoi remplacer enfin ce robinet qui fait plic, plic, depuis un an. Ainsi qu'une jolie applique pour cette vilaine douille qui pond au milieu du couloir depuis... depuis toujours en fait. D'ailleurs, la seule chose qu'ils ne trouveront pas sur manomano.fr, c'est des excuses.
C'est tout de suite plus facile avec manomano.fr. Manomano. Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
Écoutez attentivement le cœur de ce dirigeant. Il bat au rythme de sa PME et de ses collaborateurs. Il bat au rythme des épreuves passées et des défis à venir. Il ralentit quand ses salariés souffrent et accélère quand il les voit sourire.
Plus que jamais, Malakoff Humanis est à l'écoute des attentes des TPE et PME. Protection santé, prévoyance et épargne, nous avons des solutions pour vous aider et pour mieux protéger les salariés de votre entreprise. Offre soumise à condition, plus d'informations sur malakoffhumanis.com.
Nous, c'est About You. Bien plus qu'une nouvelle adresse mode, About You, c'est une nouvelle expérience. En fait, on est un peu comme votre propre boutique de mode, avec tous les styles que vous aimez. En plus, la livraison et les retours sont toujours gratuits pendant 100 jours. Alors à tout de suite sur aboutyou.com.
Radio Bonheur 20h23, le magazine des déchaînés du football. Jusqu'à 20h30, on continue de parler de la victoire guingampaise ce week-end, la première à domicile.
Oui, la première à domicile grâce au but de Franz Di Piero, de Maxime Civis aussi, qui a marqué d'ailleurs deux buts en deux matchs à la maison, parce qu'il n'a joué que deux matchs à Roudourou.
Un petit repère d'ailleurs, parce que certains pouvaient peut-être se poser la question, on nous l'a posé sur les réseaux sociaux, du coup on a fait appel à notre mémoire, et pour une fois, ma mémoire m'a pas fait défaut, le dernier joueur qui avait marqué sur ses deux premiers matchs à Roudourou en tant que recrue, c'était Christophe Mandane en Ligue 2 en 2012. Et plus récemment, il y a un joueur qui avait marqué sur ses deuxième, troisième et quatrième matchs, mais pas le premier, c'était Sloane Priva en Ligue 1.
Ah oui.
Mais tous les deux étaient des attaquants. Là, c'est le latéral droit, c'est quand même étonnant.
C'est quand même étonnant. Il est très porté vers l'offensive, Maxime Civis. Et donc, il a marqué ce but de la victoire. Et avant lui, c'est Pierrot qui avait ouvert le score. C'est Pierrot aussi qui avait marqué à QRM le premier but de Guingamp la semaine précédente, une attaque de Guingamp qui retrouve un petit peu de sa superbe. En tout cas, on retrouve cet apport là de Franz Di Piero, le garçon costaud devant qui bouge un peu les défenses, qui aussi va permettre à Guingamp de faire remonter son bloc, parce qu'il a ce rôle vraiment très important aussi.
Après, c'est aussi par rapport à la physionomie du match, parce que sur ces deux dernières rencontres, Guingamp a joué contre des équipes qui globalement ont attendu Guingamp, ou en tout cas proposé des blocs assez regroupés. Vous parliez de la solidité retrouvée de Rodez, notamment à l'extérieur avant ce match. Donc, même si ça n'a pas forcément été le cas, parce que Guingamp a manqué de maîtrise, on le disait tout à l'heure, mais Pierrot, il est fait pour les matchs comme ça. C'est alors à un autre niveau, C'est un peu comme Giroud. Giroud, vous le mettez pas pour jouer contre l'Espagne qui a 70% de possession et où vous jouez les contres. Non, vous le mettez quand vous jouez contre des nations un peu mineures, des équipes qui vous attendent, où vous êtes un petit peu favori, où vous êtes censé faire le jeu pour monopoliser des défenseurs et libérer des espaces pour les autres. Mais là, ce qui est très intéressant par rapport à ce qui s'est passé, c'est que Pierrot, on l'a trouvé, comme on avait réussi à le voir plutôt intéressant, je crois que c'était contre Ajaccio, où il était rentré quand Guingamp était mené, et donc quand Guingamp devait faire le jeu et occuper le terrain adverse, là, on avait vu un bon Pierrot. Sur d'autres matchs où Guingamp avait été moins dominant, c'était plus dur de le trouver. Mais ce qui est très bien, Gaëtan, on était un peu inquiet à un moment parce que Pierrot ne touchait plus une bille. Là, c'est qu'on l'a trouvé surtout. À QRM, on le sent aussi très vite, on touchait Pierrot et il manque quand même, j'ai pas le souvenir de le voir rater 3-4 occasions franches dans un match. Quand il en a, il marque assez régulièrement, c'est par période, mais quand on le touche, il arrive à être efficace.
Et il a été en première mi-temps avec son but, il a aussi pesé sur l'ensemble de la première mi-temps d'une manière générale. Écoutons la réaction de Stéphane Dumont à propos de l'attaquant Guingampé.
Ouais, Franzi, bah on connaît son profil, vous le connaissez, voilà, c'est un point de fixation. Il doit être en capacité à jouer de son corps. Je pense qu'il peut encore mieux faire. Maintenant, il a de la présence, notamment dans la surface. Il est capable d'alterner. La semaine dernière, il a pris la profondeur. Sur ce premier but, il est à l'issue d'un super mouvement. Il est là, il s'arrache pour la mettre au fond. Je crois que quelques minutes après, il est à la réception d'un centre. Il est... De toute façon, il n'a pas le choix. C'est son profil, il faut qu'il soit... c'est une condition sine qua non, de par ses caractéristiques, d'avoir de la présence dans la surface.
Oui, cette présence qui a fait du bien donc à Guingamp sur ce match notamment, qui a permis d'ouvrir le score, parce que c'est un vrai but de renard des surfaces qu'il met. L'action est belle, mais lui derrière vient mettre ce but, vient au charbon, comme on dit, un petit peu aller au contact des défenseurs et du gardien pour marquer. Franz De Piero explique lui ce rôle retrouvé à la pointe de l'attaque, surtout par rapport à l'attitude des défenseurs de Rodez.
Tout ça c'est un rapport qui est... Comment les défenseurs centrales ils essayent pour jouer contre moi. Par exemple, si je vois qu'eux, ils ont reculé beaucoup, j'essaie pour trouver l'espace au milieu de terrain. J'essaie pour rester disponible pour que mon équipier me puisse trouver plus facile. Du coup, aujourd'hui, c'était mieux.
Il a mené cette mission à bien, Franz Di Piero, samedi soir contre Rodez pour la donc première victoire de Guingamp à domicile de la saison. Guingamp qui compte désormais 14 points, Pierre.
Oui, 14 points en 11 matchs.
Oui.
Bon, c'est pas énorme, mais ce qui est intéressant, c'est que à chaque fois que le fond du classement semble un petit peu dire coucou au Guingampé, tac, il y a cette petite victoire qui arrive. Donc ça, c'est
inversement aussi, dès qu'on peut arriver dans le top 10 ou un peu mieux, pof,
cette défaite.
C'est une défaite. Donc on se maintient dans le ventre mou.
Souvenez-vous, l'année dernière, on a quand même beaucoup, beaucoup souffert. Là, c'est déjà important de savoir... s'éloigner du danger pour travailler avec un peu plus de temps, de sérénité autour du groupe, autour du club. Et puis, la capacité de progression de cette équipe, la vitesse à laquelle elle va progresser, apprendre de ses erreurs, gommer des petites bêtises, comme on a vu fait-on sur le...
Ah, il y a encore des trous d'air.
Sa capacité à gratter des places dans le top 10 et être régulièrement plus vers le haut que vers le bas, ça sera ça. On va voir à quelle vitesse Guingamp va réussir à monter encore d'une étape.
Il y aura peut-être cette occasion avec un déplacement à Nancy dans 15 jours, puisque il n'y aura pas de match le week-end prochain, mais le prochain match des Guingampais, le 12e match des Guingampais dans ce championnat, ce sera un déplacement à Nancy qui n'a jamais gagné Lanterne Rouge avec 5 points pour l'instant.
Ouais, les Nancéens.
Et là, ça pourrait basculer, parce que c'est Guingamp a beau être 13e. Comme je le disais tout à l'heure, il y a un énorme ventre mou. Il y a beaucoup d'équipes avec 14 ou 15 points. Je crois qu'il y a 8 ou 9 équipes qui ont le même nombre de points.
Il y a 4 équipes à 15 points et 4 autres à 14 points. Voilà. Ça veut dire qu'on a 8 équipes qui se tiennent en un seul point.
Ouais, donc en cas de victoire, c'est le top 10 assuré dans deux semaines contre Nancy.
Oui, 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 un championnat qui est dominé par Toulouse, hein, accroché ce week-end à Amiens, 0-0, mais Toulouse est en tête avec 24 points, juste derrière Sochaux, 23 points, et les trois autres clubs qui sont pour l'instant en position de play-off, Auxerre, Le Havre et la CAJAXIO. On retrouve donc Guingamp, on disait 13e, avec 14 points, soit 5 longueurs d'avance sur Amiens, actuellement barragiste 18e, 5 longueurs d'avance aussi sur le premier relégable Dunkerque, qui a battu Bastia samedi soir, et puis donc Nancy, dernier avec 5 points, qui n'a toujours pas gagné, qui a déjà viré son entraîneur et qui affrontera Guingamp lors de la prochaine
déjà,
journée.
Voilà. Déjà, on ne sait pas trop, il l'avait trouvé. Enfin,
oui, un entraîneur allemand, on n'avait jamais trop entendu parler, il est arrivé là. Il y avait eu un remaniement total dans le staff de Nancy. Bon, ça n'a pas duré bien longtemps.
Ça n'a pas marché. Prochain match donc des Guingampais à Nancy, pas le week-end prochain, mais le week-end suivant en raison de la trêve internationale. Il est 20h30, presque 31. On se retrouve demain matin, messieurs, 20h35, la rubrique dans le Finistère.
8h35.
Oui, parce qu'il est 20h30.
Oui, donc cette trêve, donc pas de match. Demain, on vous le rappelle, on vous fera un point complet sur les résultats de la Coupe de France. Et ne manquez pas le magazine la semaine prochaine, parce qu'on vous promet des ex de Brest, Lorient et Guingamp.
Ça va envoyer du lourd.
Normalement, si tout se conclut, ça devrait être sympa.
On l'espère.
Bonne soirée, messieurs, et à demain. Bonsoir. Matin, 8h35. À demain.
Bonsoir.
À demain.
Radio Bonheur. Radio Bonheur, 100% chanson.